Il est 8h sur Europe 1.
Nous allons mettre à disposition des lingettes pour que justement à chaque fois eux-mêmes puissent prendre le réflexe de descendre avec la lingette à la main.
Des lingettes, de la javel sur les claviers et un nettoyage de la clim. On s'active dans les entreprises pour réussir le défi du 11 mai. Les patrons seront-ils responsables en cas de contamination d'un salarié sur son lieu de travail? C'est toute la question. L'un d'entre eux, en direct, nous confiera son état d'esprit à J-6. Dans les hôpitaux français, les EHPAD, 25 000 morts plus tard, alerte sur le moral de nos soignants. Il y a un risque de stress post-traumatique.
On tient des postes de 12 heures. Psychologiquement, je suis fatiguée et apeurée.
Vincent Hervouette nous dira comment le téléthon du coronavirus a récolté des milliards d'euros et un peu de fierté européenne. Et puis, le cinéma, lui aussi, pense à son déconfinement. Dans la salle, on évitera de partager un seau de pop-corn, mais à l'écran, il y aura toujours des bisous.
On a déjà, il faut le savoir, avant chaque tournage, une visite médicale des acteurs. Si aujourd'hui, ils sont testés non porteurs du Covid, qui s'embrassent, elles ne vont pas choper le Covid. Hein.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Franck Riester, le ministre de la Culture. Vous dialoguez avec lui ensuite à partir de 8h30. Vos questions au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. À 8h45, Nicolas Canteloup, bien sûr, et sa revue de presse. Il est 8h01 sur Europe 1. Le journal avec François Geffrier. Très bon réveil à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Reprendre le travail, oui, mais en évitant que la photocopieuse multiplie le Covid, que les portes de l'ascenseur se referment comme un piège ou que la cafétéria se transforme en cluster. Vous imaginez peut-être en ce moment votre bureau avec les 4 mètres carrés obligatoires par personne, c'est dans 6 jours.
Il faut donc faire vite. Exemple chez Doublet, société spécialisée dans les barrières et les drapeaux. 40 salariés sur 120 sont aujourd'hui présents dans les murs. Dès lundi, ils seront bien plus nombreux. Le reportage de Maximilien Carlier.
À l'entrée du bâtiment, un portant avec du gel hydroalcoolique. Port du masque obligatoire. Au rez-de-chaussée, les ateliers et puis un escalier pour accéder au bureau.
Nous allons mettre à disposition des salariés, des lingettes.
Gaëlle Collard-Doublé, directrice générale.
Pour que justement, à chaque fois, eux-mêmes puissent prendre le réflexe de descendre avec la lingette à la main ou à l'inverse, de monter avec la lingette à la main.
Dans l'open space quasi vide, les ordinateurs sont éteints. Il y a une fine couche de poussière sur les claviers, pas utilisée depuis presque 2 mois.
Ce que l'on a prévu, c'est prendre tout ce qui est sur les bureaux, les mettre dans des cartons et de tout laver à l'eau de Javel. On a également une climatisation. Donc cette semaine, on est en train de regarder comment faire nettoyer cette clim. On va regarder comment augmenter les cloisons. Des cloisons plus hautes pour aussi favoriser la création d'espaces de travail fermés pour les protéger.
Et les salariés auront encore accès à la fameuse machine à café.
On en a besoin.
Mais ils devront avoir de nouvelles habitudes à partir du 11 mai.
Et on nettoie à chaque utilisation.
Avelin, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et parmi les patrons, c'est le sujet qui inquiète très fortement ces jours-ci. Peuvent-ils être attaqués devant les tribunaux à cause du coronavirus?
Il y a en effet une vraie insécurité juridique. Les chefs d'entreprise craignent que leur responsabilité soit en cause si un collaborateur tombe malade. 6 organisations patronales, du MEDEF aux agriculteurs de la FNSEA en passant par l'économie sociale, viennent d'écrire à la ministre du Travail. Vous allez nous éclairer, Olivier Samin.
Ce que redoutent les patrons, c'est de voir un jour des entreprises condamnées pour contamination de leurs salariés sur leur lieu de travail. Condamnées parce que, comme pour l'amiante, les juges estimeraient que, s'agissant du Covid-19, les entreprises sont tenues à une obligation de résultat. Or, affirment les signataires de la lettre, en matière de sécurité, c'est une obligation de moyens qui s'applique. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Pour les 6 organisations patronales, il faut s'en tenir aux risques générés par l'activité de l'entreprise elle-même, pas à un risque sanitaire général dont l'entreprise n'est pas à l'origine. D'où l'appel au gouvernement pour clarifier les choses dans la loi. Et justement, hier, les sénateurs ont adopté en commission un amendement qui précise en substance qu'il faut la faute intentionnelle de l'employeur pour que sa responsabilité puisse être engagée. Commentaire d'un dirigeant patronal hier soir, ça nous va très bien.
Luc-Éric Krief, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes administrateur et membre du bureau du MEDEF Île-de-France, président du GIPCO, c'est le groupement des industries de plasturgie et composite. Pour la reprise de l'activité économique, énormément d'incertitudes, hein, les règles sanitaires au sein de l'entreprise, les enfants à l'école, les transports et les gestes barrières, le télétravail, pour vous organiser, c'est un problème d'avoir autant d'incertitudes?
Ah oui, ça devient un problème cornélien même, je dirais. On est dans une situation qui est très compliquée pour les entrepreneurs et les entreprises de manière générale. Tout d'abord, vous avez vu qu'au niveau de la reprise de l'école, il va y avoir un petit souci puisque 70% des parents avouent ne pas désirer voir leurs enfants retourner à l'école. Donc déjà, il y a une grosse incertitude sur la présence des parents lundi matin à la reprise du travail. La deuxième chose, et vous venez tout juste de le signaler, ce sont les mesures sanitaires qui sont imposées en termes de sécurité de la part des salariés. Et c'est vrai que le risque pénal de l'employeur, il n'est quand même pas anodin. Il est même, c'est pratiquement une épée de Damoclès qui pèse sur la tête de chaque employeur aujourd'hui.
Il y a la crainte des droits de retrait de salariés et même de procédures donc, contre les employeurs. C'est dans ce contexte que vous rouvrez. Dans les entreprises moyennes et grandes, il faut négocier avec les instances représentatives. Quel est l'état du dialogue social à 6 jours de la reprise ?
Ben écoutez, il y a des organisations syndicales avec lesquelles ça se passe plutôt bien, d'autres qui sont connues, dont je n'ai pas cité les noms parce que tout le monde, tous vos auditeurs trouveront facilement le lien avec la C et le T qui se terminent.
donc on se retrouve... Si vous dites de l'aide, dites les trois, la CGT, allez-y, continuez.
Voilà, CGT, voilà. Donc en fait, si vous voulez, où on a des mises en demeure avec notamment des saisines de l'inspection du travail qui sont faites par certains syndicalistes au sein des entreprises pour inciter l'employeur à ne pas voir le travail reprendre au sein de son entreprise, mais surtout le risque pénal, puisque systématiquement, c'est les mesures barrières qui ne sont pas mises en avant, qui ne sont pas mises en place par le chef d'entreprise qui sont évoquées par la CGT. C'est le risque sanitaire, bien évidemment, et de contamination en général au niveau des salariés. Et puis, notamment dans l'industrie, où, si vous voulez, la distanciation sociale est quand même très compliquée à mettre en œuvre, parce que vous vous retrouvez des fois dans des petits ateliers où la mitoyenneté, malheureusement, elle prime. Et c'est très compliqué d'avoir ces barrières sociales ou ces barrières sanitaires qui sont mises en place.
Merci, Luc-Éric Krief, membre du bureau du MEDEF Île-de-France, invité en direct ce matin du journal de 8h d'Europe 1.
Et ce matin, celui qui représente les artisans et commerçants, le patron de l'Union des entreprises de proximité, Alain Griset, demande la prolongation des mesures de chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Il était en direct sur Europe 1 à 7h moins le quart. Avec le retour au travail, certains salariés qui s'étaient mis au vert voient rouge désormais, et ce n'est pas sans lien avec la carte de France colorée, celle-là même qui va déterminer les conditions du déconfinement localement, car ils sont nombreux, ceux qui, chaque jour, passent d'un département à l'autre pour aller travailler. Les salariés interrogés par Élise Dangean ont de vraies inquiétudes.
Chez nous, on n'a pas été touché plus que ça. Donc en fait, moi je me dis, potentiellement, je peux ramener la maladie et contaminer les personnes.
À partir de lundi, Jérémy va reprendre ses trajets quotidiens entre Cherbourg, où il vit, et Paris, où il travaille. Ça hantise, ramener le virus dans ses bagages. D'autant que ce père de famille est contraint de prendre les transports collectifs, train, métro, bus, là où la distanciation sociale lui semble bien difficile à respecter.
Déjà de base, même en commençant très tôt le matin, les trains sont pleins, il y a toujours du monde. Il faut fréquenter les transports pour comprendre que ça va être super compliqué.
Passer du vert au rouge, c'est ce que s'apprête à faire Hugo et sa compagne, confinés dans leur maison familiale près de Montpellier. Tous les deux reprennent le travail lundi, il faut donc rentrer en région parisienne, et ce n'est pas la maladie qui les inquiète, mais plutôt de retrouver une vie bien vide.
Bah là, ça va être de nouveau me réenfermer dans 40 mètres carrés, de ne pas pouvoir bouger, retrouver des magasins qui sont quasiment vides, les parcs ne sont pas réouverts, donc on ne peut pas faire grand-chose de plus, si ce n'est a priori aller travailler.
Et pour tous, la même inquiétude, le trafic ferroviaire qui s'annonce très réduit malgré le déconfinement.
Toujours en économie, encore un symbole d'un géant qui vacille. General Electric, GE pour les intimes, de cet empire industriel américain de 128 ans. GE supprime un quart de ses postes dans l'aéronautique.
Cela représente 13 000 emplois au total. Le groupe est fournisseur de moteurs pour Airbus et Boeing. Et puis c'est aujourd'hui que la Cour fédérale allemande, la plus haute juridiction chez nos voisins, se penche sur l'indemnisation des clients de Volkswagen. Une procédure qui aura un impact sur 68 000 dossiers individuels. L'affaire qui a éclaté en septembre 2015, le Dieselgate, a déjà coûté 30 milliards d'euros aux constructeurs.
Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant. Le syndrome post-traumatique qui menace nos soignants. Nous verrons comment les aider. À tout de suite. La suite du journal de 8h avec ce trouble qu'on observe souvent après un attentat ou une guerre et qui touche aujourd'hui le personnel soignant.
Oui, le syndrome de stress post-traumatique pour ceux qui sont en première ligne depuis plus de 2 mois et qui ont vu des dizaines de patients être emportés par la maladie. La crainte d'une deuxième vague est donc d'autant plus forte. Jeanne Bergaoui pour Europe 1 a recueilli leurs témoignages.
Psychologiquement, je suis fatiguée et apeurée.
Il y a la peur d'être contaminée, de ramener le virus à la maison. et le travail quotidien éprouvant, témoigne Audrey, infirmière à Lille.
On tient des postes de 12 heures, forcément nous tombons de fatigue, c'est le cas de le dire.
Cet épuisement pousse des soignants à contacter des plateformes de soutien psychologique. En un mois, l'association Soins aux professionnels en santé a reçu plus de 2500 appels. C'est autant qu'en 2 ans. Mais pour le président de SPS, Éric Henry, des troubles plus importants apparaîtront à la sortie du confinement.
Quand le rideau se ferme, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est le grand vide, c'est la dépression que vont faire beaucoup de soignants d'avoir donné beaucoup. Il faut vraiment être bien accroché pour passer au travers de tout ça sans avoir de cicatrices.
Souffrance, hallucinations, cauchemars sont des signes du stress post-traumatique. Le soignant revit alors un événement en boucle, explique la psychiatre Nathalie Prieto.
L'événement qui se revit en images, en sons, est toujours revécu avec la même charge émotionnelle qui finit par être très toxique.
Ces experts appellent à la mise en place de dispositifs dans chaque hôpital, mais aussi pour les soignants qui exercent dans les EHPAD ou en libéral, des sas de décompression anonymes et confidentielles pour évacuer cette charge émotionnelle.
Notons que le nombre de patients en réanimation aujourd'hui est encore en baisse. Ils sont un peu moins de 3700 et 51 300 personnes sont sorties guéries des hôpitaux depuis 2 mois.
On vous parlait hier de cette collecte de fonds mondiale pour financer la recherche scientifique contre le coronavirus. Opération réussie.
Oui, 7 milliards 400 millions d'euros récoltés depuis Bruxelles. Un joli coup pour la Commission. Vincent Hervouet.
Dans une vie antérieure, Ursula von der Leyen a été médecin. La présidente de la Commission européenne est si glaçante qu'on se dit qu'elle devait être médecin légiste. Pourtant, hier, elle a tenu son rôle d'animatrice de Téléthon. 3 heures, sans chansons, sans vedette, sans une larme. Mais la cause est bonne, le compte est bon, elle a fait cracher au bassinet 40 pays, fondations, organisations, 7 milliards et demi d'euros collectés. C'est 100 fois le Téléthon, c'est la somme qui manque, selon les experts, à la recherche du vaccin et des traitements.
Oui, alors vous avez regardé de plus près, Vincent, ça n'est pas que de l'argent frais.
Oui, par exemple, on comptabilise ce qui a été dépensé depuis 3 mois dans la recherche. Et quand on regarde d'encore plus près, on voit les absents à cette plateforme mondiale, les États-Unis, la Russie, l'Inde, la Turquie. Pour l'Afrique, il y a juste les Sud-Africains. Pour le monde arabe, seulement les Saoudiens. Et de la part de la Chine, juste un pourboire, 50 millions. L'important est ailleurs. L'Europe se lance dans la course au vaccin avec l'ambition d'en faire profiter le plus grand nombre. L'Europe est motivée, elle est la plus touchée. Le coronavirus peut même tuer l'Union européenne. En prime, ce téléthon a permis à la présidente von der Leyen d'exister. À force de faire des téléconférences, elle pourrait même prendre goût à la télé-réalité.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1. Et mieux encore que la télé-réalité dont nous parlait Vincent, il y a les films. Je sais que ça vous inquiète, Mathieu. Verra-t-on toujours des baisers de cinéma?
La réponse, Mathieu Charrier va nous la donner. Il faut dire que tout le secteur est à l'arrêt, les salles et les tournages.
Les salles de cinéma se disent prêtes à rouvrir, avec masque et gel hydroalcoolique dans les halls, possibilité d'enlever son masque pendant la projection, mais en laissant un siège de libre entre chaque spectateur, puis une désinfection systématique entre chaque séance. Encore faut-il avoir des films à montrer, car aujourd'hui, tous les tournages sont arrêtés, et pour pouvoir reprendre, il faut définir un cadre, explique le producteur Dimitri Rassam, qui a dû interrompre le tournage d'Envole-moi de Christophe Baratier, porté notamment par Gérard Lanvin.
On a préemptivement commandé des masques, commander des gels hydroalcooliques, commander des visières, des gants.
Et comment on fait pour appliquer les mesures barrières si 2 acteurs doivent s'embrasser, par exemple?
On a déjà, il faut le savoir, avant chaque tournage, une visite médicale des acteurs. Si aujourd'hui ils sont testés non porteurs du Covid, qui s'embrassent, elles ne vont pas choper le Covid. Il y a un surcoût à ça. Il me semble naturel que les assurances soient amenées à participer à l'effort.
Enfin, il faut que lors de la réouverture des salles, il y ait de gros films qui sortent, des locomotives, et ce n'est pas gagné. Certes, Kaamelott d'Alexandre Astier, Mulan de Disney, Bob l'Éponge ou le nouveau Christopher Nolan sont attendus en juillet, mais encore sous la menace d'un décalage en fonction de la situation sanitaire dans le monde entier. Même la sortie du nouveau James Bond, prévu pourtant en novembre, pourrait être finalement décalée à l'année prochaine.
Mathieu Charrier, bon, ça nous laisse encore un peu de temps pour retrouver notre smoking.
Oui, pour l'envoyer au pressing quand celui-ci aura rouvert ses portes avant les cinémas. Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h.